Alors, Vincent Gratton, ça nous fait réfléchir, hein?
Et qu'on n'a pas le goût de retourner là.
Hey, mais tu te rends compte, eux autres parlent de stade 4, c'est l'état d'urgence. C'est l'urgence.
D'autant plus qu'il faut s'activer pour nos enfants dont l'entrée commence, là, est proche. Pour nos entrepreneurs, on parle de milliers d'entrepreneurs qui doivent fermer. Pour tant de monde, il faut qu'on se regroupe.
Non,
C'est très intéressant quand Mme Pépin dit l'époque du « je me moi ». Ça, cette époque-là où on ne veut pas prendre ses responsabilités collectives, ça doit finir. T'sais, on doit être une nation qui s'unit et ça ressemble, c'est drôle parce que ça ressemble au sujet d'aujourd'hui, à cette notion d'équipe. Et c'est pour ça que le sport d'équipe est si enseignant et la game d'hier du CH était pleine d'enseignements. Puis ça, c'est le sport comme je l'aime. On va revenir, Marie.
C'était du beau jeu, hein?
Ah, c'était du beau jeu. Puis on va revenir, Marie-Claude, à une des pierres fondatrices de la victoire d'hier. Okay. Mardi 4 août, dans le Journal de Montréal, le journaliste Jonathan Bernier recueille cette confession de coach Claude Julien. Ouvrez les guillemets. Il dit « On a besoin de la contribution de tout le monde. À ce stade-ci de la saison, ce n'est plus une question de stratégie de X et de O. C'est une question de volonté et de… »
Désir.
Exact. Le désir, Marie-Claude.
Désir de vaincre.
Le désir,
désir c'est… Désir de dépassement.
Exact. Puis c'est presque toujours associé à la vie amoureuse ou sexuelle, mais le désir peut se déployer dans d'autres zones. Et c'est ça qui est intéressant en sport, puis même en politique. Donc, l'attraction que provoque le désir, c'est pas seulement vers une personne, il peut l'être pour une équipe. Le désir peut être un moteur pour aller vers une coupe, vers une victoire, comme nation, d'aller vers un but collectif. Voilà. Et moi, je salue Claude Julien qui, en plus d'appeler à l'engagement puis à la volonté, a osé lâcher ce mot incroyable que peu de monde utilise dans le sport.
Le désir.
Et quant au nom d'un but collectif à atteindre, on se regroupe pour défendre l'objectif. On se rallie porté par une volonté, par l'engagement, par ce désir d'aller au bout de ce qu'on s'est donné comme objectif. Ben, on peut réaliser de belles choses. Et c'est ça, le parallèle qu'on peut faire avec ce qui se passe, par exemple, à Melbourne, c'est que tu pars d'un point A pour aller au point B. Puis pour arriver à B, il va y avoir des obstacles. Le sport, c'est ça. C'est une marche vers un but. Puis dans le sport d'équipe, on apprend à servir collectivement ce but. Et c'est pour ça que mes enfants, Marie-Claude, ont tant appris à l'école du sport d'équipe. C'est une extraordinaire école pour apprendre à vivre. Personne ne va me convaincre de banaliser tout ce qu'apporte le sport d'équipe à l'éducation d'un enfant, en cheerleading, au hockey ou ailleurs. Anecdote, OK? Écoute-moi, j'ai raconté ça de m'emmener, mais je la raconte pareil.
Vas-y.
L'équipe du sport du 98.5 va être contente. Écoute, mon gars de 24 ans, lorsqu'il avait autour de 11-12 ans, fait partie d'une équipe de soccer, OK, qui réussit à se qualifier de justesse pour les séries, comme le Canadien. Ils réussissent finalement à se qualifier pour la finale. Finale qui opposera l'équipe de mon gars, qui s'est qualifiée par la peau des fesses, à la meilleure équipe du circuit qui n'a pas perdu un seul match de l'année. OK. Alors, mon gars, c'est un capitaine dans l'âme, OK? Il est au service de l'équipe, ce qui fait qu'il a développé au fil des ans, je te dirais, de grandes qualités de passeur. Lui, il prépare les jeux. Il pourrait poter top corner, mais c'est un fabricant. On arrive à cette fameuse finale, et en arrivant à la finale, où l'équipe adverse est pleine de joueurs talentueux, à la Crosby ou à la Malkin, je réalise, Marie-Claude, que l'équipe adverse, puis ça, il ne faut pas faire ça au Père Gratton, je réalise que l'équipe adverse a déjà une attitude un peu prétentieuse, puis se comporte comme s'il avait déjà gagné le match.
Mm-hmm.
Alors, tu me connais, moi, ça vient me chercher. Mm-hmm. J'aime pas trop ça. Et j'aime pas qu'on niaise mon monde. Et je dis pour la première fois de ma vie quelque chose à mon gars que je n'ai jamais dit. Je lui dis, comme toujours, écoute, amuse-toi, aie du plaisir. Puis au moment où il s'apprête à rejoindre son équipe, je dis, « Hey, Manu, dis oui, papa. Hey, mets-en une coupe dedans. » Il m'a fait un sourire, il m'a fait un clin d'œil. Puis à la première demi, son équipe a scoré 5 buts, il en a scoré 4. Okay? Puis après la première demi, à 5-0, son coach le met à défense. L'équipe adverse n'a pas tiré une fois sur le goaler de l'équipe de mon gars. Et ce jour-là, mon gars a compris que toutes les montagnes se grimpaient, que le désir de gagner en gagne était quelque chose de grand. Ce jour-là, il a assumé son rôle de capitaine, il a scoré comme Weber hier, le capitaine du CH l'a fait, puis il est allé à la défense quand il fallait. Hier, c'était ça, c'était comme une équipe, c'était comme une métaphore de ce qu'on doit être comme nation, là. Weber, Carey Price ont joué en capitaine. Ben Chariot, il a été sur la glace pour les 4 minutes 34 à la fin. Son coach a dit, hey, let's go, mon Ben, vas-y, il fait la job. Puis les capitaines, les leaders l'ont entraîné avec eux, les jeunes, Keke, Suzuki, Lekkonen. Puis le désir, Marie-Claude, comme le portait le Rocket, Tigui Lafleur, Mario Tremblay. Et je trouve, écoute, j'étais chez nous dans mon salon, puis j'étais tellement content. Et je trouve qu'en ce temps
ta joie est contagieuse. C'est vraiment contagieux.
Parce que je trouve qu'en ce temps de COVID, où il y a beaucoup d'anxiété, de préoccupation, d'inconnu pour l'avenir, une attitude comme celle du CHS, c'est comme ça parle un peu à notre inconscient ou à notre conscient, je ne sais pas trop, là, mais ça parle au plus profond. On dépasse le hockey. Ça dit que quand l'unité est là, portée par le désir, bien tout se peut.
Puis tu fais le rapport aussi entre désir et politique.
Bien, c'est ça parce que, pour moi, c'est la même chose, parce que l'image d'un club sportif, la métaphore, ça s'applique aussi à la vie politique. On désire quoi comme peuple? On veut aller où? Vers quel but? Vers quel genre de société? On veut définir quoi ensemble? C'est quoi notre désir collectif? Puis, à cet effet, comme on est dans un jeudi qui est presque un vendredi... Ben oui, c'est ça, parce que demain, tu vas animer seulement un 30 minutes.
Oui.
Tu vas être le pre-game de Danny et de Martin.
Tu vas être l'avant-match.
Ah ben, watch it, babe, maman Claude.
Ils ne pourront pas me sortir du studio.
Exactement. Il y a un livre, moi, d'une politicienne qui ne fait pas l'unanimité, mais qui est une formidable autrice. Elle ne fait pas l'unanimité, OK? Mais j'en parle pareil, puis je le dis, là, la gang, là, même je ne suis pas membre de son parti, OK? Je répète, je ne suis pas membre de son parti.
Hey, j'ai hâte de voir c'est qui?
Catherine Dorion, députée de QS.
Oui.
Elle a écrit un très beau livre qui s'appelle « Les luttes fécondes ». Comment libérer le désir en amour et en politique? Il y a donc une parenté entre Coach Julien et la députée de QS, le désir comme moteur. Et moi, je vous encourage à lire, même si vous ne partagez pas ces idées, c'est très important de lire des auteurs avec qui on n'est pas d'accord pour faire cheminer un peu la pensée pour ne pas demeurer dans le connu. Là, moi, j'ai des auteurs comme Michel Houellebecq. Je ne partage pas nécessairement ce qu'il dit, mais il me brasse. Ça me fait du bien.
Oui.
Alors, je pourrais vous en lire longtemps des passages, mais justement, elle parle de ce désir pour qu'on se redonne les uns aux autres quelque chose comme un but magnifique à atteindre. Alors, je vous encourage.
Oui. Écoute, en deux minutes, peux-tu nous parler de ce sujet qui te préoccupe grandement, les aînés qui veulent rester chez eux, mais qu'on envoie dans des CHSLD? Moi, j'ai tellement hâte, là, mais tellement hâte, Vincent, qu'on fasse davantage de soins à domicile.
Bien, c'est exactement ça. Puis c'est notre François, notre chercheuse, qui m'a envoyé un texte de l'HuffPost. On y mentionne que beaucoup de personnes qui ont des limitations légères puis des problèmes de santé légers sont admises dans des centres de soins de longue durée. On parle d'un rapport qui révèle qu'une personne sur neuf au Canada est admise là dans ce type de résidence qui aurait pu rester chez elle. Alors, tu as plein de monde qui désire, encore là, qui désire demeurer chez eux, mais les soins à domicile sont si déficients qu'il n'est pas possible pour ces personnes-là qui ont des limitations légères ou modérées de le faire. Alors, on parle de milliers de personnes qui aimeraient demeurer chez elles en toute sécurité, mais c'est impossible. Puis les gens en milieu ruraux, entre autres, ont 50 % plus de chances d'être placés en longue durée. Et au Canada, les soins à domicile, le support aux aidants sont négligés. Puis à travers ces soins-là, bien, les soins, par exemple, l'entretien ménager ou le service de repas ou d'adapter une habitation, ce sont des soins qui ne sont pas complexes. Eh bien, dans ces catégories-là, les besoins sont grands, alors que ce sont des soins relativement faciles à exercer, puis ce sont des types de soins que les communautés, que les familles pourraient piloter s'il y avait de l'aide puis une politique de soins à domicile plus solide.
Ouais. Puis tu sais qu'il y a des pays, excuse-moi de t'interrompre, mais il y a des pays comme la Belgique où est-ce que tu peux un petit montant, tout petit montant, à partir de très jeune, là, je te dirais à partir de 25 ans, montant dérisoire, style 5 $ je pense par mois ou je ne sais trop, qui devient ton assurance pour avoir des soins à domicile quand tu vas être à la retraite.
Ben oui, mais c'est
ouais, c'est compliqué, là.
Ben, c'est de repenser aussi les modèles, parce que s'il y a une chose qu'elle nous a appris cette pandémie-là, c'est d'avoir une réflexion sur les CHSLD, sur les lieux de vie des aînés. Nous autres, on habite à Saint-Lambert. Si on désire organiser la maison en bi-génération, là, bonne chance. Alors, il va falloir que les villes adaptent leur politique pour les logements, pour aînés, pour les bi-générations. En 2030, il va y avoir deux fois plus d'aînés. Leur avenir passe aussi par le respect de ce désir de vivre chez eux, puis d'avoir les moyens de le faire.
Ouais, puis on peut imaginer comment toute cette horreur de la COVID aurait pu être différente si plus de gens avaient été chez eux.
Absolument, absolument.
En tout cas. Écoute, on va se laisser là-dessus. Demain, on ne se parlera pas parce qu'effectivement, l'émission va ne durer qu'une demi-heure, mais on se reparle lundi avec plaisir. Ce sera notre dernière semaine.
Notre dernière semaine, laissons monter le désir.
Oui, François, dans mon oreille, me dit « Oh, tu peux me parler à 3 heures, comme tu veux, mais je ne peux pas te faire de promesses. » Mais écoute, je n'ai pas le désir de mettre fin à cette chronique, mais je le fais.
puis on écoute ta pre-game demain.
D'accord, à demain. Merci, demain via les ondes. Salut.
Bye-bye,
Vincent. On va s'arrêter. Et puis après, François Gagnon va nous parler des dernières nouvelles entre la crise aluminium USA-Canada.